France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai lu La Maison Vide et j'ai été complètement bluffée par ce livre. Une histoire d'une beauté incroyable. C'est un véritable travail d'orfèvre. Après avoir terminé, je n'ai plus su quoi lire pendant une dizaine de jours.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et oui, c'est à couper le souffle de beauté, de chagrin, de colère. Il est possible, comme vient de le dire notre auditrice Catherine, de se trouver groggy après la lecture du dernier roman de Laurent Mauvignier, véritable transe de 750 pages qu'on ne voit pas passer, courant d'une vie à l'autre, d'une guerre à l'autre. Les femmes, leur corps, leurs désirs, ce qui pourrait être leurs existences, ballottées, négociées, violentées par l'histoire avec un grand H et les hommes qui sont à ses commandes. Mais aussi chacune de ces femmes, Jeanne-Marie, Marie-Ernestine, Paulette et Marguerite, évidemment, regardez de près avec l'outil de grande précision que peut être une phrase. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit l'adage populaire. Ici, il n'y a pas de roman sans les récits qui l'ont précédé, y compris dans leurs habits très approximatifs, ces histoires, je cite, entendues des dizaines de fois. Laurent Mauvignier est notre invité pour son si beau livre La Maison Vide, paru aux éditions de Minuit. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Laurent Mauvignier.
Bonjour.
Votre livre La Maison Vide a paru aux éditions de Minuit. Il figure sur de très nombreuses listes. Et comment cela pourrait être autrement? Voilà, c'est un des très grands romans, pour ne pas dire le très grand roman de cette rentrée littéraire. Ici, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités en leur proposant un questionnaire lecture, leur portrait, en imaginant que ça parle, que les livres qu'ils ou elles ont rencontrés sur leur chemin peuvent nous parler d'eux. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que les livres qu'on rencontre sur son chemin, ça peut un petit peu parler de nous?
Oh bah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous savez, c'est toujours la question des influences. On ne sait jamais dans quel sens ça marche, en fait. On ne sait pas si on aime des livres parce qu'on découvre quelque chose de nouveau, ou si au contraire, c'est parce qu'ils nous ressemblent un peu.
Mmh. Le titre de ce livre dont on va parler tout à l'heure s'appelle La Maison Vide. Est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres?
Non, dans une maison, il n'y avait pas de livres. Ni de disques, d'ailleurs. Il y avait une télévision noir et blanc jusqu'à très tard. La télévision, c'est presque plus marqué que l'absence de livres, qui me paraissait normal, puisque en fait, chez tous les gens que je connaissais, il n'y avait pas de livres, de toute façon. Quoi.
Comment est-ce que vous arrivez à eux?
J'allais dire grâce à la maladie. Quand j'étais enfant, j'ai une tante qui m'a offert un livre quand j'étais à l'hôpital, et j'ai commencé à lire. Une de mes sœurs qui était abonnée à France Loisirs, je me souviens, et du coup, j'ai commencé à lire comme ça, et voilà, les livres sont venus, et puis...
Ça se produit à ce moment-là sur vous, enfant?
Un sentiment d'appartenance, d'avoir trouvé un endroit à moi, en fait. Mais comme un lieu, comme une maison, pour le coup. Une autre maison dans la maison. Et voilà, je sais pas, un lieu... Alors c'est étrange, parce que c'est à la fois un lieu fermé, comme un abri, et en même temps, un lieu très ouvert... comme une évasion. Il y avait les deux en même temps. Je me souviens, ça c'était un sentiment, une sensation presque, très, très libératrice, puis très, en même temps, c'était à la fois libérateur, mais j'allais dire presque sans le risque, sans le danger. C'était à la fois libre et rassurant en même temps.
Souvent, on utilise cette image, en effet, pour parler de la lecture d'une manière d'habiter le monde. Ça pourrait paraître abstrait pour des personnes qui n'en ont pas fait l'expérience ou qui n'utilisent pas cette idée-là. Mais puisque vous l'utilisez, Laurent Mauvignier, est-ce que vous voulez bien préciser ça? Qu'est-ce qui fait qu'enfant, ou a posteriori, dans l'après-coup, vous pouvez définir cette expérience-là, de la découverte de la lecture ou d'un livre comme, tiens, un endroit où être?
Mais je crois que c'était inversement proportionnel au sentiment d'emprisonnement que j'avais dans la réalité, parce que comme j'étais malade, j'ai passé à l'hôpital, j'ai passé du temps aussi chez ma mère comme ça. Dans un monde où je me sentais contraint, où j'étais pas bien, quoi, où je me sentais pas bien, et d'un seul coup, par les livres, je pense aussi que j'imaginais pas qu'un livre puisse avoir une puissance aussi forte. Je pensais que, bon, je regardais la télé comme tous les gamins de mon âge, à cette époque-là, et je pensais que c'était un petit peu le seul endroit, la seule fenêtre qu'on pouvait avoir sur. Et j'étais tellement surpris de découvrir par les livres que c'était la même chose, mais bien plus fortement, et avec cette sensation que me donnait pas la télévision, parce que la télévision, on la regardait en famille, alors qu'un livre, d'un seul coup, on vous parle à vous, personnellement. Et ça, c'est une découverte très, très forte.
Oui, il vous est arrivé de décrire la lecture d'un livre comme une expérience fusionnelle, inégalée. Et je me suis dit, ah tiens, c'est une nouvelle image, cette idée-là d'un corps à corps, ouais. Vraiment très puissant, quoi.
Oui, et pour moi, par exemple, ça c'est un de mes critères de lecteur, j'ai envie de dire. Quand j'ai l'impression que je peux lire un livre comme si c'était le journal, je l'abandonne. Je l'abandonne parce qu'en fait, je l'abandonne pas, parce qu'en fait, il est pas venu à moi. Mmh. Donc, ça m'intéresse pas plus que ça. Il faut que, quand même, qu'il y ait, entre le livre et le lecteur, un endroit, qui, pas forcément agréable d'ailleurs, un endroit qui peut grincer un petit peu, mais qui soit un
endroit...
Mais
il y a une étreinte, quand même.
Voilà. Il faut qu'il y ait une expérience un peu de corps à corps, presque, que la langue, que le sujet, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il faut que quelque chose existe. Qui viennent nous regarder un peu en face, nous solliciter, quoi. Et pas seulement nous flatter notre paresse ou enfin dans le côté divertissement ou autre, mais voilà, que ça, peut-être que ça aille nous chercher dans un recoin un petit peu qu'on connaît moins de nous-mêmes.
Et vous cherchez des choses expressément dans la lecture?
Alors c'est sûr que je pense que je suis complètement, j'allais dire corrompu par l'écriture, ça c'est certain. C'est-à-dire que j'ai tendance à, j'ai toujours un regard un peu technique sur les livres que je lis, et puis je suis toujours en train de fureter à la recherche d'une manière et de quelque chose que je n'aurais pas trouvé. Là, par exemple, je pense à Joyce Carol Oates, par exemple. Je me souviens de certaines incises chez elle, de façon de faire, ou des choses en italique, par exemple, comme ça, ou de répéter. Par exemple, il y a je crois que je sais plus comment s'appelait ce livre, Reflet en eau trouble, qui est un livre très court, où elle raconte la mort d'une femme avec un député, et chaque chapitre se termine par pas comme ça, pas maintenant, en italique. Et moi, ça m'a tellement, fasciné, je peux pas dire ébloui en même temps, et en même temps fasciné par l'horreur, en fait, que ça. Et puis formellement, c'était une façon tellement forte de trouver quelque chose. Ça, je sais pas comment je le lis. Mmh. Je sais qu'au fond de moi, c'est l'auteur c'est l'écrivain qui aime ça. Mais parce que je rencontre quelque chose qui, j'ai l'impression qu'on vient de m'ouvrir une porte pour me dire là, on peut s'engouffrer, il y a quelque chose à. Il y a quelque chose à dire, à faire avec ça, quoi.
C'est marrant que vous parliez de ça, parce que en vous lisant, on y viendra tout à l'heure, en lisant La Maison Vide, j'ai aussi beaucoup lu ce très grand ouvrage comme un ouvrage sur la pulsion d'écrire, le désir d'écrire, la transe d'écrire, d'où ça viendrait cette chose-là. Et à vous écouter, Laurent Mauvigny, on a presque l'impression que elle est première, cette pulsion sur la pulsion de lire, comme s'il y avait déjà avant toute chose Laurent Mauvigny qui écrit avant de lire. Est-ce que c'est le cas?
Ouais, moi vraiment. Moi, je fais partie des. C'est vrai que parfois on entend ça, qu'il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui se sont mis à écrire parce que c'était de grands lecteurs, qui l'écriture comme conséquence de leur vie de lecteur, et puis d'autres qui sont au contraire, qui sont devenus des lecteurs parce qu'ils avaient besoin de nourrir la machine, un peu comme on est dans une sorte de train, vous voyez, avec le charbon qu'on met dedans. Il faut mettre du charbon, il faut absolument alimenter, et c'est vrai que je suis plutôt partie de cette catégorie, je crois.
Et quelle est l'autrice ou l'auteur ou les autrices, les auteurs qui ont le plus mis du charbon dans votre machine à écrire, Laurent Mauvigny? Ou peut-être, sinon le plus, parce que c'est pas forcément l'idée en quantité, mais le mieux au meilleur moment, quoi.
Ah bah, je sais pas, il y a Virginia Woolf, évidemment. Mais par exemple, aujourd'hui, je vous dirais Olga Tokarczuk, qui sort un livre, d'ailleurs, on sort un livre là que je vais m'empresser de lire bientôt, je pense. Joyce Carol Oates. Il y a des gens comme Lobo Antunes ou Muñoz Molina. Les Espagnols et les Portugais ont beaucoup compté, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas tant que ça d'eux, on parle toujours de la littérature américaine, mais de la littérature étrangère. Mais par exemple, moi, je dois beaucoup aux Espagnols, à Javier Marías ou des gens comme ça, à la fois ce goût et du romanesque et d'un travail sur la langue, d'une modernité de la langue, mais en même temps qui ne s'oppose pas au travail vraiment de romancier, quoi.
Qu'est-ce que vous entendez par le goût du romanesque? Celui de raconter des histoires?
Celui de raconter des histoires, ouais. C'est-à-dire de pas être dans quelque chose de clivé entre lecture, écriture exigeante, formaliste, et roman populaire, grand public, etc. Il y a des endroits où ces dissociations-là n'existent pas. Et moi, c'est quelque chose que je cherche parce que... Alors, je pense que ça vient de mon parcours. Et je me souviens quand j'étais jeune au Beaux-Arts où on avait vraiment... C'était quand même un peu une époque d'avant-garde pure et dure. Enfin, c'était la fin de Comète de ça, on va dire.
Il fallait pas raconter des histoires.
Et il fallait surtout pas raconter des histoires. Et le personnage, c'était l'ultime trahison. La psychologie, on n'en parle même pas. Et c'est des choses qu'on allait chercher au cinéma, par exemple. Chez Scorsese ou des choses comme ça. Et du coup, il y a pour moi toujours eu cette frustration, ce manque, parce que je trouvais ça chez Dostoïevski. Je me dis, c'est comme si on était coupé de quelque chose qu'on aimait vraiment. Et donc, comment relier ça à quelque chose, en même temps, sans renier, pour moi, le... Et il y a des auteurs, je pense à Thomas Bernhard, par exemple, qui nous ont dit, à la fin du XXe siècle, on peut écrire des romans contemporains, qui sont vraiment traversés par le XXe siècle, par l'expérience du XXe siècle, y compris des avant-gardes, et qui en même temps...
Nous racontent une histoire.
Nous racontent une histoire et ont cette puissance qu'on peut trouver chez Dostoïevski ou chez d'autres, quoi.
Comment est-ce que vous rencontrez les ouvrages de Thomas Bernhard? Ou quand?
Alors ça, j'ai découvert ça pas très longtemps avant de réussir à écrire mon premier roman. J'en avais écrit beaucoup d'autres que j'ai jetés... à la poubelle pour infliger ça à personne. Et en fait, ce qui a été pour moi très fort, ça a été la découverte conjointe de Thomas Bernhard et de François Bon en même temps. Et j'ai lu les deux en même temps.
Et alors, deux salles de ambiance,
mais en fait, j'ai l'impression deux bouts du même couloir.
Est-ce que vous voulez bien juste resituer, Thomas Bernhard, on peut le resituer, mais aussi François Bon?
Alors François Bon, c'était un auteur à l'époque qui publiait et chez Verdier et chez aux éditions de Minuit, et qui est apparu dans les années 80, qui avait un rapport à la fois une langue très forte, lyrique, mais puissante, très très charpentée, j'allais dire comme un vin, qu'on pourrait dire... tonique, et en même temps un rapport au réel, au monde contemporain, même au prosaïsme vraiment du monde des usines, du monde des périphéries, etc. Et moi, ces deux écrivains-là réunis ont vraiment m'ont fait une espèce d'explosion dans mon esprit, parce que d'un seul coup, j'ai eu l'impression qu'ils m'apportaient la solution de ce que je cherchais, en fait, et que j'arrivais pas à nommer, que j'arrivais pas à... Moi, j'ai passé toute mon enfance dans une zone pavillonnaire à la campagne, et je me disais, mais tous les noms des rues, c'était des noms d'écrivains, mais je me disais, pour être écrivain, en fait, il faut être ou très très vieux,
ou très mort,
ouais, exactement, ou alors, puis surtout avoir quand même ne pas avoir dépassé le périph et être vraiment de Saint-Germain, quoi. Et donc je me disais, moi je serais jamais écrivain.
Mais par contre, ça existait dans votre tête, vous saviez ce que c'était Saint-Germain, vous saviez ce que c'était Paris.
Non, ça c'est des choses que je revisite maintenant, mais à l'époque c'était plutôt de me dire l'impression d'une sorte d'interdit, d'un monde...
Un monde ailleurs, quoi.
Complètement impossible, inaccessible. Moi, le truc, ma mère voulait que je sois guichetier au Crédit Agricole. C'était son rêve. Et pour elle, c'était très ambitieux, déjà. Donc, évidemment, moi, mes petits délires d'écrire, je me disais, c'est pas possible. Et parce qu'on n'a jamais vu un écrivain aller à l'Intermarché ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça que la découverte, notamment de François Bon...
Parce qu'ils disaient dans leur langue qu'ils étaient en train d'écrire, qu'éventuellement ils avaient lu et que peut-être ils allaient à l'Intermarché et surtout qu'ils pouvaient même écrire à l'Intermarché.
Disons qu'il y avait un présent. D'un seul coup, la littérature était possible au présent. C'était notre monde pouvait faire partie de la littérature. Alors que pendant très longtemps, je considérais que non, je pensais que non, naïvement, comme ça, je me disais la littérature, c'est un truc noble et tout ça. Et de comprendre qu'en fait, c'était juste quelque chose qui appartenait à la vie et que Et ça a eu des conséquences pour moi tellement importantes parce qu'aujourd'hui encore, je m'aperçois que quand je ne sais pas faire quelque chose, que je n'y arrive pas...
Tout confondu.
Ouais. Je me dis que même quelque chose de raté, de moche ou d'idiot, en fait, il faut pas l'effacer, il faut pas le mettre de côté, il faut au contraire l'intégrer et se dire attention, ça c'est en train de nous raconter quelque chose. Il faut aussi se débarrasser de nos hiérarchies qui sont en réalité des choses qui nous encombrent et il faut essayer de les évacuer pour essayer de saisir en même temps tout ce que le monde peut nous dire, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes quoi comme lecteur, Laurent Mauvigné ?
Quoi comme lecteur ? Je suis moins lecteur compulsif qu'il y a quelques années. Je lisais beaucoup. Maintenant, je reste un lecteur, j'allais dire, très méthodique. C'est-à-dire que quand je découvre un auteur qui me plaît, j'essaie de tout lire. Donc, en fait, souvent...
Avec quoi comme idée ? Pourquoi vous vous dites qu'il faudrait tout lire ?
Parce que on finit par trouver des récurrences, des détails qu'on ne voit pas sinon. Et par exemple, je vous parlais d'Olga Tokarczuk, alors pour le coup que j'ai lu en entier, et donc c'est pour ça que j'attends le prochain avec impatience. J'ai découvert par exemple que dans tous ses livres, il y a un détail qui revient quasiment systématiquement. Un moment, quelqu'un déterre une fourchette, et sur cette fourchette, il y a toujours gravé la croix gammée. Et c'est un truc... Alors que vous lisez le livre, vous en rendez pas forcément compte de ça. Mais sauf que ça revient d'un livre à l'autre. Et ça, moi, ça c'est des choses qui me fascinent. C'est ce genre de petites choses.
Mais ça vous fascine parce que ça raconte un cerveau humain, ça raconte un territoire de l'imaginaire.
Ouais, puis ça raconte, je pense, ça raconte aussi presque inconsciemment la d'où vient l'écriture.
Donc c'est... Grande question, encore une fois, il me semble, de la maison vide. On va parler de ce livre-là, Laurent Mauvigné, juste après cette chanson extraite du nouvel album de Bertrand Belin. C'est sorti tout juste vendredi. La maison, c'est un motif très régulier dans les chansons de Bertrand Belin. On aurait pu trouver de ce côté-là. Mais on a été chercher sa chanson qui s'appelle L'inconnu en personne. Et cette silhouette qui ne dit jamais exactement son nom fait un parfait écho à la forteresse de silence, je vous cite, dont parle votre roman en évoquant l'un de ses personnages principaux, Marguerite.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À force de vide, on ronge le peu entendu et on le fait parler. Il y a du parler derrière le roman aujourd'hui dans votre book club, derrière les littératures à peine en embuscade et affleurant au détour d'une virgule. Il y a les choses colportées, les rumeurs, les histoires, les récits, même rares, qui ont tourné autour de certaines vies. À plusieurs reprises, vous suspendez l'incroyable rythme de votre dernier livre, Laurent Mauvignier, pour renseigner le geste que la narration opère. Et que fait la langue dans votre livre ? Elle ranime, au sens pneumatique du terme. Une maison, prétendument déserte, attend que l'on souffle sur sa carcasse pour que se relèvent une à une dans la poussière les silhouettes des êtres qui nous ont précédés et qui dansent parfois depuis longtemps silencieusement en nous. Vous le faites patiemment, avec endurance, avec beauté, avec ivresse même, et vous composez un chant déchirant de beauté. La Maison Vide a paru aux éditions de Minuit, en cette rentrée littéraire, et on en parle avec vous, Laurent Mauvignier. Je parle de ces moments où c'est comme si vous leviez la tête, vous sortiez un tout petit peu de la transe, de cette ivresse-là, de cette langue qui va si vite, qui prend en même temps le temps, mais qui va si vite, pour nous dire... Je vous rappelle que je suis en train de faire ça, ou voilà ce que nous sommes en train de faire. On va écouter un extrait de La Maison Vide, c'est un de ces moments-là.
C'est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j'ai besoin d'en écrire une sur mesure, à partir de faits vérifiés, de gens ayant existé, mais dont les histoires sont tellement lacunaires et impossibles à reconstituer qu'il faut leur créer un monde dans lequel, même fictif, ils auront chacun eu une existence. C'est cette réalité qui se dessine, qui deviendra la seule, même si elle est fausse, car la réalité vécue s'est dissoute et n'a aucune raison de nous revenir. Le récit que j'en fais est comme une ombre déformée, trahissant la présence d'une histoire dont je capte seulement l'écho, la vibration dans l'image tremblante d'une fiction et d'un roman possible.
Dans cet extrait de La Maison Vide, Laurent Mauvignier, comme je le dis, c'est un des moments où il y a quelque chose qui se suspend pour qu'on vous entende, vous, narrateur, de nouveau parler. Vous semblez très conscient du projet, il y a une très grande précision aussi dans votre langue, dans votre manière de nous en parler. Est-ce que c'est l'état dans lequel vous avez écrit, avec la conscience de ce que vous étiez en train de faire ?
Je sais pas comment dire ça. Par moment, oui. Et par moment, absolument pas. Il y a des moments où ça allait vraiment très loin, ça m'échappait complètement. Et en même temps, je perdais jamais le fil du roman, jamais. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai l'impression que ce roman, je l'ai tellement attendu que quand il est venu, c'est qu'il était prêt. Et donc, voilà, tout ça arrivait au moment où j'en avais besoin à chaque fois.
C'est exactement la sensation qu'on a en le lisant.
Ouais, mais c'est
vraiment d'une justesse, quelque chose qui se dépose comme un vêtement parfaitement tendre.
Complètement,
c'était
vraiment ça. Ouais. En écrivant, c'était vraiment
ça. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous dites quand vous dites je l'ai attendu, je l'ai tellement attendu ce roman ?
Ben, je crois. Vous savez, il y a des livres qu'on écrit parce qu'on rencontre des images, des histoires, tout ce qui peut motiver l'écriture d'un livre à un moment donné dans sa vie d'auteur. Et puis il y en a quelques-uns qui ont fait de nous des auteurs. Et ceux-là, on les a attendus longtemps. Et ce livre-là, il en fait partie. Il fait partie de ces livres parce qu'il y a eu des images. Je pense à l'image de mon père en train de regarder sa mère se faire tondre à la Libération, cette image d'un petit garçon. Cette image-là, moi, je l'ai en moi depuis ma propre enfance parce que ma mère m'en a parlé, me l'a raconté. Et je pense que cette image-là, elle fait partie des images un peu fondatrices qui m'ont poussé à devenir écrivain, qui m'ont construit ou créé même comme écrivain. Donc j'ai l'impression de rendre quelque chose en fait.
Mais d'ailleurs, à tel point que quand cette image arrive, Laurent Mauvignier, donc on est peut-être, je sais pas, à la 740e page, enfin on est vraiment très 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 avancé. Et c'est une image de l'horreur, donc c'est une foule, voilà, qui est réunie et qui humilie, tond des femmes, les violentes, rit, hurle. Et il y a mon petit papa de 7 ans, qui est peut-être un enfant dont vous ne savez pas exactement s'il est dans cette foule, dont vous espérez qu'il ne soit pas dans cette foule, dont vous priez pour que quelqu'un ne l'ait pas amené regarder sa propre mère se faire humilier. La tension avec laquelle vous rendez cette scène nous fait dire que oui, ça fait très très longtemps que vous la portez, cette scène, en fait.
Oui, et cette phrase-là, l'idée du petit papa de 7 ans, je l'avais avant de commencer l'écriture du livre. Mmh. J'ai envie de dire, c'est un petit bout de phrase comme ça. Et alors évidemment, c'est ce que ça recouvre, c'est grave, mais la phrase en elle-même, c'est insignifiant, c'est presque rien. Et en même temps, et ben oui, il faut passer par 700 pages et plus, puisque les 700 pages, c'est la version courte, on va dire. Pour arriver à ça, et c'est souvent quand on me demande combien de temps j'ai mis pour écrire ce livre, je suis un peu obligé de répondre 3 ans et 40 ans. Mmh. Parce que certains livres, ouais, sont... je sais pas dans quel sens on dit vous portez votre livre, puis à un moment c'est aussi le livre qui vous porte aussi, quoi.
Il y a vraiment l'idée d'un roman des origines à bien des égards, et moi je trouve que le premier roman des origines que vous faites, Laurent Mauvignier, c'est celui de votre écriture. C'est-à-dire que on a l'impression que vous nous racontez comment la parole, le qu'en dira-t-on, les récits racontés, ce qui nous parvient des générations passées, par le bruit du monde, quoi, vous a fait écrivain. J'ai vraiment l'impression d'une démonstration que c'est ces mots-là autour de vous qui, et ceux qui n'ont pas été prononcés, qui vous ont fait écrivain.
Ouais, sans doute. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que dans le livre, j'avais besoin d'une maison. Parce que quand on part comme ça sur des questions de temporalité, de génération, etc., il faut quand même un lieu qui puisse un petit peu servir de point d'ancrage. Mais j'avais aussi besoin de temps en temps, dans le récit, de revenir un peu à moi, mais presque comme quelqu'un qui est au bord du malaise a besoin de revenir un peu à lui, quoi, parce que ça va trop loin, quoi. Et il faut revenir, et je me dis que c'est aussi une façon d'accompagner le lecteur, mais en écrivant, je pensais pas tant que ça au lecteur, je pensais vraiment au besoin que j'avais de faire le point sur cette aventure d'écrire ce livre-là aussi, quoi. Parce que il y a des moments, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Qu'est-ce qui vous étourdit, c'est de remonter aussi loin. Donc aussi loin, c'est quoi? On a parlé de cette scène-là qui arrive à la fin du livre, donc on est après la Seconde Guerre mondiale, mais vous remontez bien des générations avant. Est-ce que vous vous êtes dit, ce sera ça mon point de départ? Par exemple, ce sera Jeanne-Marie, la mère de...
Non, pas du tout.
Non. Qu'est-ce qui vous fait commencer à un point, on va dire, chronologique de l'affaire, Laurent?
En fait, ce qui a commencé, donc effectivement, il y a cette histoire de le petit papa de 7 ans, et... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai relié cette question de mon père, et en particulier du suicide, de son suicide, quand j'avais 16 ans, en 83, et de la façon dont on me parlait de sa mère. Sa mère Marguerite est morte en 54, elle avait 41 ans, et quand on me parlait d'elle, on me parlait toujours de sa mort comme quelque chose qu'on... Je sentais... qu'on évitait, qu'on...
Oui, vous dites une forteresse de silence, que personne n'osait aller déranger, quoi.
Juste après la mort de mon père, j'étais troublé parce qu'à l'époque, l'Église refusait les enterrements...
De personnes suicidées.
De personnes suicidées. Donc il avait fallu que le médecin fasse un certificat comme quoi mon père était mort, non pas d'un suicide, mais des suites d'une longue dépression. Donc on appréciera au passage
l'euphémisme.
L'euphémisme, quoi. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à tout ça pendant des années, mais je me suis dit, mais c'est curieux la façon dont on parle de cette mort. Finalement, il y avait un écho quand même très fort avec celui de la propre mère de mon père. Et donc les deux se sont un petit peu... Mais alors j'ai commencé à travailler là-dessus, et puis j'ai essayé de rencontrer cette Marguerite qui était un mystère pour moi. Puis
mais avec des hypothèses, Laurent Mauvignier, avec l'idée que peut-être cette mort mystérieuse de 41 ans, ce pourrait être un suicide.
Oui, parce que je l'ai pensé de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure, elle est morte d'alcoolisme. Alors bon,
si ça c'est va comme pas mourir d'une longue dépression, quoi.
Ben oui, voilà, c'est comme il meurt d'un arrêt du cœur, vous voyez. Ben oui, forcément, j'ai envie de dire, ça va pas, quoi. Surtout quand, à côté de ça, on est très précis sur les morts des uns des autres, sur et pourquoi là, d'un seul coup, on sent qu'il y a un truc qui se cache, quoi. Et il se trouve que j'avais une légion d'honneur qui se traînait chez moi depuis je sais pas combien de temps, quoi. Et j'ai commencé mes petites recherches et tout ça, et puis d'un seul coup, je retombe sur l'arrière-grand-père Jules, dont je découvre qu'il a été un héros de Verdun et tout ça. Je me dis, mais quand même, c'est incroyable, quoi. Le père de Marguerite, en fait, a été un héros. On a dû lui montrer la figure de son père comme une figure à honorer en permanence, etc. Et finalement, ce qui se passe, c'est exactement le contraire, quoi. Donc, cet écart entre les deux, ça, je me suis dit, là, il y a l'espace d'un livre. Il faut quand même deux choses assez contradictoires. Il faut un trajet à remplir d'une certaine manière pour qu'un livre soit possible, quoi. Et donc là, j'entendais cette espèce de vibration qui appelait quelque chose. Mais vous savez, après le grand problème, c'est pour moi c'est quelque chose que j'ai du mal à dire parce que je crois pas du tout en la vocation, parce que je crois pas en tout un tas de choses. Mais en fait, il y a parfois des moments. Je sais pas comment dire autrement, en fait. Moi, j'ai des visions, quoi. Je sais pas. Il y a vraiment des moments. Ça vient me chercher, quoi. Ça me fait peur de le dire, en fait. Il y a des moments.
Mais comme des scènes à écrire.
En fait, les scènes sont tellement présentes, notamment dans la nuit, dans des rêves, dans des cauchemars, tous des cauchemars d'ailleurs. C'est tellement précis et tellement présent. Que je me sens totalement envahi par ça, quoi. Et donc écrire, c'est la seule façon pour moi de, je sais pas si c'est de m'en débarrasser, en tout cas de transformer quelque chose qui sinon me polluerait la vie, quoi, m'encombrerait trop. Et donc d'une certaine manière, alors l'intérêt de ça, c'est que je sais qu'au moment où je l'écris, j'arrive à mesurer si c'est, il faut que ce soit à peu près aussi fort que ce que j'ai ressenti, en fait. Donc, et puis souvent, ça ne l'est pas, donc faut recommencer, quoi.
Mais il y a aussi quelque chose de très fort dans la maison vide, sans que ça prenne la forme d'un oracle et d'une destinée à laquelle personne ne pourrait échapper à son destin et à la répétition des choses. Mais c'est qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui tente de remettre du sens et que en effet on ne meurt pas comme ça mystérieusement, on ne se donne pas la mort comme ça mystérieusement, et il y a quelque chose qui remonte éventuellement des pistes de cause à conséquence, là,
ouais, exactement.
Parfois très loin, parfois même ça remonte à une histoire d'amour manquée entre une élève de piano et son professeur de piano, et que peut-être cette immense frustration et cet immense deuil d'une histoire d'amour qui n'aurait pas été vécue, amour pour la musique, amour pour un homme, pourrait comme ça, dans une grande cascade, emmener le malheur. C'est très romanesque, on pourrait dire, mais c'est peut-être aussi la vie. C'est peut-être une façon de comprendre la vie, non? Quand
ouais,
la vie est indéchiffrable.
Ouais, mais c'est ce que je crois vraiment. Et je crois que là, pour le coup, la littérature a vraiment quelque chose à faire, à dire, à réfléchir. Il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, la fiction, en tout cas, et le roman en particulier, parce que le roman est quand même aussi un art du temps. On peut comme ça dilater des moments et puis voir qu'effectivement quelque chose qui peut paraître minuscule peut avoir des conséquences sur une, deux, trois générations. Et ça, là, c'est vrai que moi, j'ai essayé vraiment de travailler. Parce que je vous dis, il y a des moments comme ça, j'ai des espèces d'hallucinations comme ça, de visions, de ce qu'on veut. Mais en même temps, pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'essayer de les contrecarrer par une façon d'écrire et d'appliquer une méthodologie et vraiment d'essayer de travailler à comprendre des choses, à essayer de les déchiffrer, de les mettre en perspective, et c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose qui au contraire devient extrêmement, les choses deviennent extrêmement concrètes, parce que il y a des moments, je vois toutes les lacunes, toutes les toutes les béances ou les insatisfactions, les frustrations qu'on peut avoir en tournant autour de quelque chose, et on se dit non, mais c'est pas ça exactement, c'est pas. Et puis il y a des choses où, par exemple, l'histoire peut répondre, la sociologie
l'histoire
peut répondre,
avec un grand
l'histoire
H,
avec
ouais.
un grand H, ouais. Et puis il y a des moments, ben non, on n'a rien. Et en fait, moi je m'aperçois que souvent, ce qui m'intéresse, ça va être la petite vibration. Vous savez, par exemple, on nous dit la mobilisation, ça vous pouvez apprendre que ce jour-là il faisait beau, 1er août, samedi, etc. Vous voyez tout, ça vous trouvez tout ça. Mais vous trouvez pas le... Qu'est-ce qu'on se raconte le soir après à table quand on sait qu'il y en a un qui va partir? On peut imaginer que dans les familles paysannes au début du XXe siècle, où les grands-parents vivent sous le même toit, le grand-père qui, lui, partit en 1870, qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Est-ce qu'il dit quelque chose ou pas? Vous voyez, parce qu'on a les images, la fleur au fusil, etc. Mais on se dit...
Concrètement,
le soir, il se passe quoi, en fait, dans
quoi.
Le salon Et puis, quand le couple, après, va se retrouver dans sa chambre, il se passe quoi? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on fait l'amour? Est-ce qu'au contraire, on reste tétanisé? J'ai envie de dire... Vous savez, on pose souvent la question de la petite histoire et de la grande histoire, mais plus ça va, plus j'arrive à me dire, mais en fait, ça n'existe pas, tout ça. Il y a les histoires. C'est tout, en fait.
Vous avez dit il me fallait une maison pour écrire cette histoire. On va entendre Marguerite Duras dans un entretien de 1976 parler de la maison.
La maison appartient à la femme. La femme est un prolétariat, enfin. Comme vous le savez, millénaire. Et la maison lui appartient de la même façon, enfin, qu'au prolétaire, les instruments de travail. C'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. La sécurité, la famille, la douceur du foyer, etc. etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires. C'est un tout. Hein. C'est que les gens viennent chez eux pour mourir d'habitude. Vous voyez, ils préfèrent mourir chez eux. Ils préfèrent. Dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison.
Jules est parti le matin du 4 août et a laissé derrière lui un vide si grand que toute la maison a semblé encore le ressentir plusieurs jours après. Comme si on avait vidé tous les meubles, débarrassé toute la maison de ses buffets, de ses armoires. Comme si elle avait été vidée entièrement et que maintenant elle résonnait comme une maison abandonnée ou désertée. Non pas ouverte à toutes les vents, non pas comme une ruine, mais plutôt impressionnante et nue comme une sorte d'église, de cathédrale, comme si l'espace y était exagérément agrandi et que c'était la sensation de cet élargissement qui devait paralyser et surprendre ceux, ou plutôt celles, qui y étaient restés. Pour la première fois, aucun pas d'homme ne foulerait les tomettes, le carrelage, les parquets de la maison. Pour la première fois depuis son édification, aucune voix d'homme ne donnerait d'ordre dans cette maison, ni ne résonnerait entre ses murs. Aucune volonté d'homme ne s'imposerait aux femmes de cette maison, mais pas davantage à la maison elle-même, car celle-ci était le domaine des femmes depuis toujours. Et depuis toujours, lorsqu'ils y entraient, c'était comme si les hommes le faisaient par effraction, presque contre la maison, lui faisant violence en imposant entre les murs de chaque pièce une dissonance, une espèce de brutalité ou de déséquilibre lié au dehors rugueux des femmes et des champs, là où la maison, apprêtée, assujettie, aux femmes et aux chats, semblait réclamer la douceur du thé, la lenteur du temps pour les travaux de couture près du feu, ou pour que des plats mijotent dans la cuisine pendant des heures, dans le seul but que l'appétit des hommes s'en satisfasse, avant qu'ils rejoignent le vent, la pluie ou le soleil. Le monde des saisons et des intempéries, celui du grand air, leur domaine.
Ça se répond assez bien, cet extrait de votre livre « La maison vide, Laurent Mauvigny » et cet archive de Marguerite Duras en 1976, qui parle de la maison comme le domaine des femmes et où il y a à la fois l'idée du refuge, c'est un endroit où on viendrait mourir, et l'horreur, dit-elle, l'horreur des familles, l'horreur de la famille, les pensées suicidaires. On entend dans cet extrait-là, on aurait pu en trouver d'autres, presque la métaphore « l'air de rien » qui court tout au long du livre entre la maison et le corps des femmes. Il y a quelque chose, les maisons dans ce livre-là sont jamais laissées en paix, tout comme le corps des femmes n'est jamais laissé en paix dans votre livre. Comment est-ce que vous avez déjà choisi ce titre et fait que, en effet, cette maison-là, comment les gens y entrent pour des mariages, pour des rumeurs, pour des trucs à négocier, pour des héritages, comment on en sort, comment on revient annoncer la nouvelle de quelqu'un qui est mort au front, comment vous en avez fait le cœur battant, mais presque invisible?
D'une certaine manière... Duras a un petit peu répondu, puisque elle utilise le mot contenant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de fou dans une maison, surtout dans une maison de famille, dans une maison hantée, on va dire. Vous savez, en fait, quand on parle des maisons hantées, on parle toujours des. On croit toujours parler des gens qui ont... Alors qu'en fait, c'est pas... les maisons ne sont pas hantées par les gens, elles sont hantées par les situations, par les drames, par les bonheurs, mais pas tant que ça par les gens. Les gens, ils passent, c'est pas grave. Mais ce qui s'inscrit dans les murs, ce qui s'inscrit dans la mémoire d'un lieu, c'est les émotions ou les sensations par quoi l'air est traversé, en fait, quoi. L'air d'une maison.
Et ce qu'on appelle l'esprit des lieux.
C'est l'esprit des lieux, ouais. C'est pour ça que la maison vide, elle est forcément, enfin, les maisons hantées, on croit toujours qu'elles sont forcément pleines. Mais en réalité, elles sont. Ce qui frappe quand on arrive dans une maison qu'on connaît bien, ou même d'ailleurs dans un lieu qu'on ne connaît pas, mais où on sent ces présences-là, ce qui frappe, en fait, c'est plutôt l'impression, c'est leur absence. Et c'est. Cette absence présente, pesante même, mais c'est ce vide où résonne l'écho d'anciennes présences, un peu comme, vous savez, dans le livre, maman Marguerite écoute sa mère jouer du piano et elle l'écoute pas directement parce que sa mère ne veut pas, elle l'écoute de sa chambre au-dessus. Et elle
écoute l'oreille sur le plancher.
Voilà, l'oreille sur le plancher. Et en fait, elle écoute la vibration du piano à travers les murs de la maison. Et c'est la maison qui lui donne finalement, qui communique le son du piano, quoi. Quelque chose comme ça de totalement immatériel. Et je pense que oui, une maison, c'est ça, quelque part. Mais l'écriture aussi, c'est ça.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'écriture, elle est traversée par une musique qui va peut-être... de l'un à l'autre, peut-être.
Mais comme en seconde main ou en seconde oreille, quoi, c'est ça.
Ouais, comme une sorte de relais, de passage de relais, en fait.
Mais avec la
quelque chose d'immatériel.
Mais avec la déperdition et l'augmentation qui va avec. Parce que dans votre roman, ouais. Laurent Mauvigny, vous dites combien le réel, ce qui s'est passé, allait vraiment à la Première Guerre mondiale, ou ce qui s'est passé entre le personnage de Marie-Ernestine et son professeur de piano, ou pas passé. Ce qui s'est passé d'impossible dans la relation mère-fille entre Marie-Ernestine et Marguerite. Ce qui s'est passé entre Marguerite et André, entre Lucien. Bref, à chaque fois... Vous dites ça, de toute façon, je l'atteindrai jamais. Donc, ce que moi, je peux atteindre avec l'écriture, c'est le billard à trois bandes, quoi. Ça.
Mais c'est tout à fait cette question de la déperdition. C'est vraiment ça.
Et de l'augmentation.
Ben oui, parce que bizarrement, et ça, c'est, vous voyez, c'est un peu.
Parce que c'est pas que de la perte.
Non. Puis cette perte, en fait, bizarrement, cette perte est un plus. En fait, c'est que la déperdition, de toute façon, l'écriture, ça commence par l'échec, ça commence par renoncer à une certaine forme de vie réelle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment...
On ne saura pas si ce petit papa de 7 ans, il était là en train de regarder sa mère se faire humilier.
Mais oui, mais moi, ce que je sais, c'est que moi, je l'ai vu.
Ouais, parce qu'on vous l'a dit.
Ouais. Et donc, je l'ai vu, vraiment. Et donc ça existe. Vous savez, c'est comme toujours quand on pose la question après de ce qui est vrai, pas vrai dans le roman, ce qui est la part imaginaire et la part vécue. Mais j'ai envie de dire, mais moi, mon imaginaire, je le vis, je l'ai vécu. Enfant, je l'ai vécu. Nous vivons nos histoires.
Oui, d'ailleurs, quand vous parliez de cette maison-là qui vibre des sons et qu'on a toujours en seconde main, c'est presque la sensorialité des enfants. C'est-à-dire que les enfants... Ils ont du monde qui les entoure et donc de cette fameuse grande histoire, de la guerre, des histoires des adultes, du désir des adultes, de la vie amoureuse des adultes, de leur trahison. Ils ont ces espèces d'écho de la souffrance des adultes.
Ouais.
Ils ont comme ça une espèce d'écho de seconde main, d'une certaine manière. C'est comme si votre écriture, elle réussissait à se brancher sur cette sensorialité de l'enfant.
La différence, c'est que les enfants sont, par rapport aux adultes, aux parents, on va dire, les enfants sont les seuls adultes de ces situations-là. Ce sont les seuls qui regardent et qui écoutent, qui voient. Les adultes sont trop occupés à vivre, à être dans le bruit du monde, alors que les enfants, même s'ils font aussi, ils peuvent être bruyants, être dans la vie complètement, mais en même temps, ils ont un sérieux. Les enfants ont un sérieux que les adultes n'auront jamais, quoi.
Est-ce que vous pensez que vous écrivez depuis ce sérieux-là, Laurent Mauvigny ?
Ah oui, ça j'en suis sûr. Je pense que, on peut pas être adulte et écrire, c'est pas possible. Je pense qu'il faut quand même. C'est pas une part d'enfance comme on dit des fois,
garder
sa part d'enfance. Non, c'est pas ça. C'est garder.
C'est plus grave que ça.
C'est plus grave que ça, ouais. C'est garder un endroit qui est un endroit en soi de d'une densité, d'une intensité de regard. Qu'on perd un peu, parce qu'on s'habitue aux choses de la vie, qui fait que quand on est adulte, on est un petit peu émoussé d'une certaine manière. Mais quand on est enfant, on a un regard extrêmement aiguisé sur les choses. Et peut-être parfois un petit peu plus dur ou plus... mais ça, c'est quelque chose d'une expérience qui est unique. Et c'est à partir de là qu'on peut écrire. Pour moi, je dis ça, peut-être pour d'autres, je dirais n'importe quoi, mais je dirais que c'est idiot, mais... Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît évident que c'est à partir de là que l'écriture est possible. Quoi.
On va écouter la voix de Catherine, auditrice du Book Club. Elle vous a lu.
Bonjour le Book Club. Bonjour Laurent Mauvigny. Vous commencez l'histoire par le narrateur qui cherche après la Légion d'honneur dans un tiroir d'une commode. Et à partir de cette recherche, vous déployez l'histoire de Jeanne-Marie, Marie-Ernestine, à Marguerite, trois de vos ancêtres. Vous avez décrit ces trois femmes avec une intensité incroyable et je me demandais en lisant ce livre, est-ce que rendre ces trois femmes de votre passé réel a eu un effet cathartique pour vous ? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Catherine pour cette lecture et pour cette question. Est-ce que rendre, je reprends les mots, ces trois femmes réelles, c'est très beau cette idée-là, a eu un effet cathartique pour vous ?
Je sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour le savoir, ça. Je me dis, parce que je crois beaucoup au travail du temps sur ces choses-là. Et je sais que le temps qu'il a fallu pour écrire ce livre-là, je pense qu'il me faudra aussi beaucoup de temps pour que ce livre se dépose en moi comme un objet un peu passé. Là, il est encore trop vivant, d'une certaine manière, trop... Et puis, comme je suis dans une période où, je suis amené à en parler beaucoup, j'ai l'impression qu'il faudra que je prenne le temps de laisser toutes ces paroles, tout ce que j'ai pu en dire, se déposer. Il y a quelque chose quand même dont je peux dire que qui me fait penser quand même qu'il y a quelque chose, oui, qui me, je sais pas si c'est cathartique, mais en tout cas de positif pour moi, c'est que j'ai l'impression que là, mes ancêtres, les anciens, comme on dit chez moi, je crois qu'ils, vu la réception du livre, je me dis qu'ils sont plutôt à côté de moi que contre moi sur ça. Et j'ai l'impression de m'être relié quelque part à eux. Ouais. Je sais pas si je peux dire c'est cathartique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pendant longtemps, j'ai eu la sensation d'être séparé d'une histoire et d'être aussi de la vivre comme beaucoup de gens d'ailleurs dans ma famille mais pas seulement, vous savez, d'être de se dire oh ben nous notre famille on n'a pas d'histoire, on n'a pas été, enfin voilà, on est des gens inconnue. On a vécu à la campagne. Il s'est rien passé d'extraordinaire. Et finalement, en allant vers eux, je m'aperçois que, tout est extraordinaire en fait. Et donc ça, c'est plutôt apaisant. Enfin, quelque chose de. C'est marrant, les vies sont extraordinaires. Quoi.
Vous utilisez le mot vivant, vous dites ce roman, il est vivant, il est encore vivant, un peu trop vivant presque en moi. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très fort en le lisant, c'est la vitalité de cette langue, cette vitesse, la manière dont ça avance, donc le travail proprement dit de l'écriture, mais aussi la vivance ou la vitalité que ça redonne à chacune des femmes de cette histoire, comme si ce roman-là permettait de les regarder, et y compris le petit papa de 7 ans, plus du côté de leur mort, mais du côté de leur vie.
Ouais, ça c'était important, ouais.
Et donc du côté de leur désir, du côté de leur raison. Chacune a ses raisons dans ce roman.
C'est vrai qu'en plus, bon, il y a les femmes, mais je voudrais dire aussi que les hommes sont un peu, évidemment pour des raisons différentes, mais ils sont aussi privés de leur corps aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que vraiment, ce 20e siècle, quand on le regarde comme ça, aujourd'hui, je me dis, mais c'est une horreur de A à Z. C'est-à-dire que
sur la question, en effet, du corps et des désirs.
Ah ben oui. C'est-à-dire qu'ils sont absolument privés de leur existence, de leur désir. Parce que les femmes, bon, on voit pourquoi, société patriarcale, etc. Mais les hommes, par exemple, c'est vraiment, à part se faire tuer sur les à la guerre ou se tuer au travail ils sont quand même c'est quand même un monde qui est extrêmement dur et on a l'impression que personne ne s'appartient en fait, personne ne peut s'appartenir et c'est vrai que moi il y avait dans l'écriture quelque chose pour le coup de très physique dans le besoin d'aller redonner vie à chacun quoi mais ça passait par plein de petites choses. Par exemple, je repense au personnage de Jules, qui est ce jeune homme trop gros, qui est maladroit dans son corps, qui est empêché, qui est une sorte d'amoureux contrarié, un petit peu presque idiot avec son amour dont il ne sait pas quoi faire, qu'il ne sait pas comment exprimer parce qu'on lui a jamais appris à exprimer ses sentiments et qui ne sait pas quoi en faire. Et comment il va être transformé par la guerre, comment même son corps, enfin tout change quoi. Et tout ça ne lui appartient pas. Pour moi, ces questions de rapports de force qui sont induits, c'est-à-dire que des dominés, comme certains hommes dans le livre, deviennent des espèces de dominants atroces parce que c'est le seul endroit où ils peuvent l'être, quoi. Se payer un peu, se rattraper sur quelque chose, quoi. Et il se trouve que dès qu'ils arrivent, effectivement, durant sa raison, la maison, elle appartient aux femmes, c'est le territoire des femmes. Et donc là, les hommes qui arrivent là-dedans
viennent. Ils entrent ou maladroits ou par effraction.
Ou par effraction, ouais, et deviennent brutaux. Parce que d'un seul coup, il faut s'imposer, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans l'écriture, Laurent Mauvigny, vous permet à vous, par la langue, par l'entreprise concrète que c'est d'écrire un roman, de vous appartenir ?
Mais je crois que c'est pour ça, précisément, que j'avais besoin de ces passages où le narrateur reprend la parole. C'est qu'à un moment, j'avais besoin, moi, de ressaisissement.
Où suis-je?
Où suis-je dans tout ça, en fait? C'est l'impression, oui, d'un corps qui m'échappait et que j'avais besoin de reconvoquer, en fait. Quoi.
Le book club continue. Il n'y aura pas assez d'un seul book club pour évoquer la maison vide. À cette heure-ci, on se fait le relais d'événements, d'initiatives en rapport avec le livre et la lecture. Deux choses aujourd'hui. Le relais d'appel des amis d'Edward et Elisabeth Bond. Je rappelle qu'Edward Bond était un dramaturge, metteur en scène, théoricien, traducteur britannique mort en 2024. C'est une association qui a récupéré cet été la considérable bibliothèque de l'écrivain et de son épouse avant la vente aux enchères de leur propriété pour la stocker dans un entrepôt. Avant que cette collection d'ouvrages ne soit dispersée, faute de solutions solution pour la préserver. Ils ont entrepris l'inventaire rigoureux de cette bibliothèque. C'est un document qui va rejoindre le fonds Bond, acquis en janvier dernier par la British Library, où il pourra nourrir utilement les travaux de futures chercheuses et chercheurs. Et pour finir ce précieux inventaire, ils lancent un appel aux dons. C'est à faire directement au groupe Occard Way Legacies. On mettra le lien sur la page du Book Club. Et une autre histoire de couple, une autre histoire de bibliothèque. On peut voir à partir de demain, 7 octobre, à la BNF à Paris, une exposition autour des prémices de l'écriture de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire les expéditions que l'anthropologue a menées avec son épouse Dina au cœur du Brésil dans les années 30. L'expo dévoile des documents et des objets inédits qui sont extraits pour la plupart des archives remises par l'anthropologue en 2007 à la BNF. Et l'entrée de l'exposition est gratuite.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le Book Club, Laurent Mauvignier, nous cherchons de la musique dans les livres. Je peux vous dire qu'en refermant votre livre, je me suis dit que je n'entendrai plus jamais, mais plus jamais sonner de la même manière un piano. Voilà, du début jusqu'à la fin, c'est une sorte d'instrument fantôme qui nous saisit. On termine donc avec un extrait de votre livre, La Maison Vive. Vide. Waouh, ce lapsus incroyable! Du public, on entendra encore pendant quelques minutes les murmures et les négociations de Marnie Ernestine et de Florentin, qui chercheront à s'entendre sur un compositeur. Oui, Bach, pourquoi pas? Elle aime beaucoup Bach. C'est difficile, mais ce sera finalement Bach qui aura pour mission de révéler le talent de mon arrière-grand-mère. Elle qui n'aura été à ce moment qu'une émotion à fleur de peau, un visage rosy et presque en feu, des doigts tremblants et empêchés, comme sa mère. Assise quelque part et déjà en train d'imaginer comment elle racontera l'épisode à Firmin ou comment elle reprendra son souffle quand tout sera fini. Car elle craindra de ne pas tenir le coup et de s'évanouir sur place si tout ne se passe pas bien. Elle en sera là de ses réflexions, la préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser, quand les premières notes s'élanceront. Le beau professeur toujours à côté de la pianiste pour lui tourner les pages, voilà. On entendra bientôt s'élever la musique dans le grand salon de cette grande tante Caroline, qui restera elle aussi la respiration bloquée, en attendant de voir si on lui a menti ou si on a exagéré le talent de sa petite nièce, cette chère petite qu'elle aime tant, qu'elle lui léguera bientôt à sa mort, sa maison, le lac, tout ce qu'une vie sans enfant lui aura permis de laisser sans remords et avec amour. Merci beaucoup Laurent Mauvignier d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre La Maison Vide, paru aux éditions de Minuit, prix littéraire Le Monde, prix des libraires de Nancy, en lice pour le prix Fémina, pour le concours des lycéens dans la première des sélections du concours et surtout sur toutes les tables de vos librairies et de vos bibliothèques. Je vous envie, ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous envie. Voilà. Très bel après-midi sur France Culture.